Shalom, bonjour à tout le monde, bonsoir. Je tiens à remercier de tout cœur le rabbin El-Kaïm qui me fait l'honneur d'accepter ma conférence dans ces lieux. J'ai eu le loisir pendant ces derniers jours de faire sa connaissance plus profondément et je vous dis que c'est quelqu'un qui m'aide la communauté de Lausanne de haute main et à qui je souhaite une grande réussite pour l'approfondissement du judaïsme parmi ses fidèles. Je voudrais également remercier tous les responsables de la communauté, je ne vais pas faire la liste. Bon, passons directement dans le vif du sujet. Notre étude porte sur ce qu'on appelle l'actualité du noachisme, ou du noachisme on dit en français. De quoi s'agit-il ? Je voudrais commencer par une critique du judaïsme qui a été formulée par un des plus grands philosophes du XIXe et XXe siècle. Il s'agit d'Henri Bergson, qui, bien que juif d'origine, était chrétien de pensée. Bergson affirmait, je vais le dire ça, selon mon langage, mais c'est à peu près ça qu'il voulait dire, que le judaïsme était une forme de brouillon, une sorte de brouillon, disons de préparation à la grande réussite qui était pour lui le christianisme. Il l'a dit, il l'a écrit, qu'effectivement, le judaïsme était une religion purement nationale, qui parle d'un Dieu qui n'est préoccupé que de son peuple, et le christianisme serait justement la réussite, l'épanouissement du judaïsme, puisqu'il a réussi à faire entendre la parole du Dieu biblique à l'ensemble de l'humanité. Voilà, c'est une accusation grave, qui est en fait à l'origine, effectivement, du paulinisme et du christianisme, qui a affirmé remplacer l'étroitesse d'esprit, entre guillemets, du peuple juif et du Dieu d'Israël pour se proposer une mission universelle. Notre sujet, notre propos, sera d'expliquer qu'il n'y a rien de plus faux que ce qu'a pu penser Henri Bergson. Il a des circonstances atténuantes. Effectivement, le milieu philosophique et religieux dans lequel il a vécu ne pouvait pas l'amener à une connaissance sérieuse de l'enseignement universel d'Israël. Mais ce que je voudrais ici vous enseigner ce soir, par mon intermédiaire, mais c'est la sagesse de nos ancêtres, qu'est-ce que la Torah a à dire là-dessus ? Et d'emblée, il faut savoir que la Torah commence, l'histoire du peuple juif commence par une élection. Effectivement, une élection. Vous entendez mal, là ? Ça marche pas bien, le système ? Non, c'est très bien. Bon. Par une élection d'Abraham, puis de Yitzhak et de Jacob, puis de la nation qui est issue d'eux. Mais dans quel but ? On ne peut pas ne pas remarquer que la Torah ne commence pas justement par l'élection d'Abraham. La Torah commence par la création du monde et l'humanité dans son ensemble. Et c'est sur l'arrière-plan des événements primordiaux de l'histoire, ce qu'on appelle la dispersion des langages à Babel et tout le reste, c'est à partir de cet arrière-plan qu'Israël est élu. Ce qui, même sans savoir le contenu exact de cette élection, signifie déjà que l'élection d'Israël s'insère dans une vocation universelle. Effectivement, quand on rentre dans le détail du texte, on voit très bien que Dieu dit à Abraham « Il faut que tu quittes la maison de ton père, que tu te sépares de tout le reste du monde. Mais pourquoi ? Pour te former en une grande nation, tu vas arriver vers une terre à qui cette nation prendra en possession. Et le résultat, « Venivrechu becha kol mishpechot ha'adama » par toi seront bénies toutes les nations de la terre. Donc on voit que dès le départ, avant même que commence l'histoire d'Israël, cette histoire est pensée en termes d'universel, ce qui suffit largement pour réfuter ne serait-ce que le procès d'intention fait par Bergson au judaïsme. Effectivement, il y a une vocation universelle. Simplement, cette vocation, à la différence de la vision cosmopolite du christianisme, passe par une identité nationale. Et on peut se demander, mais pourquoi ? Pourquoi faut-il qu'il y ait une communauté humaine qui soit séparée du reste de l'humanité, qui vive son histoire pour elle-même, et donc qui ne peut pas ne pas s'attirer l'animosité et l'opposition du reste du monde à cause de cela ? Pourquoi le Créateur aurait-il choisi une stratégie si bizarre ? D'accord ? C'est la question que se pose tout juif ou tout homme bien intentionné sur Terre. Pourquoi est-ce qu'il fallait passer par l'élection d'une nation ? Voilà. Et je pense que c'est important d'élucider ce point-là avant de parler du noachisme, parce que le noachisme en est la conséquence. La conséquence d'une réflexion sérieuse sur ce point-là, c'est ça qui va nous donner un début de réponse. Et là, je vais être obligé de rentrer dans un petit détail. Le rabbin El-Kaïm a dit que mon discours est souvent dense. Effectivement, ça va être un peu scolaire. Je vais vous demander de faire attention à un problème grammatical hébraïque. Quand j'ai dit « Par toi seront bénies toutes les nations de la terre », je savais très bien que je traduisais mal le verset hébraïque. Parce que « seront bénies », en hébreu, se dit « veitbarechu ». Or, le terme employé par la Torah, c'est « venivrechu ». Et ce n'est pas la même chose. Le mot « venivrechu » par toi seront... Alors ça veut dire quoi « venivrechu » Eh bien ça veut dire, c'est aussi un mot de français, « seront marcotées toutes les nations de la terre ». C'est quoi le marcotage? Ceux qui ont fait de la viticulture, vous savez très bien, puisque vous êtes dans un pays où il y a beaucoup de vignobles, et donc vous savez très bien que le marcotage, c'est une spécificité de la culture de la vigne qui consiste à prendre un sarment de vigne. Un sarment, ça veut dire une branche. Un sarment de vigne que l'on enterre dans le sol, on la courbe à la faire, en donnant la forme d'un genou, le mot berer, bénédiction, on veut dire également genou, et on enterre ce sarment dans le sol, et il y a une propriété particulière de la vigne, c'est que ça donne des racines, et qu'à partir de ces racines se forme une nouvelle vigne. Et donc, quand Dieu dit à Abraham, en toi seront marcotées, ça s'appelle le marcotage, voilà, ça s'appelle le marcotage, cette opération, eh bien, quand Dieu dit à Abraham, en toi seront marcotées toutes les nations de la terre, ça veut dire que les nations sont comparées à des ceps de vigne, et qu'Abraham est comparé au sol. Et il est le sol dans lequel sont mêlés 70 sarments différents pour réaliser une nouvelle vigne, qui ferait l'unité entre les différents ceps de vigne. Alors, l'arrière-plan de tout ça, vous avez bien compris, c'est la dispersion des identités humaines lors de la tour de Babel. On considère, selon l'enseignement de la Torah, est très clair, c'est que l'humanité n'est pas l'humanité originelle. Elle vit dans un éclatement d'identité. Il y a 70 manières d'être homme, et ce n'est pas toujours la même chose. Être suisse est une manière d'être homme qui est fondamentalement différente de la manière d'être homme qu'on appelle vietnamien. Ce n'est pas du tout la même chose. Et il faut donc, et c'est une très grande richesse pour l'humanité, cette dispersion, cet éclatement de l'identité humaine. C'est un enrichissement extraordinaire que seulement au XXe siècle on a commencé à comprendre grâce à l'anthropologie. Mais ça crée également des conflits. Le monde est habité de violence à cause de l'opposition des identités, la tentative d'accaparement de l'identité humaine dans son ensemble par une des identités, ce qui donne l'impérialisme aussi bien politique que culturel. Par exemple, moi qui ai vécu une partie de ma vie en France, je sais ce que c'est que le colonialisme français qui consistait à considérer que tout homme sur Terre mange de la baguette et porte un béret. Un jour, on a découvert que, et étant donné que c'est comme ça, ça veut dire que tous les hommes sur Terre sont des Français. Ils ne le savent pas toujours, il faut leur expliquer. Il y a aujourd'hui ce qu'on appelle l'impérialisme culturel américain qui suppose que tout homme sur Terre ne désire qu'une seule chose, c'est manger du hamburger et de boire du Coca-Cola. Et donc que tous les hommes sur Terre sont des Américains qui parfois le savent et qui parfois l'ignorent, et il faut leur expliquer. Ce qui a d'ailleurs des conséquences politiques absolument incroyables. Par exemple, pour un simple exemple, les États-Unis étaient persuadés que le peuple irakien était démocrate et qu'il suffisait qu'un seul tank américain arrive en Irak pour que le monde entier, pour que toute la population se révolte contre leur dictateur. Eh bien non, ça n'a pas marché. Ça veut dire probablement qu'il y a une diversité d'identités dont il faut tenir compte quand on parle des relations internationales. Mais ça, c'est pour une autre conférence, si ça vous intéresse. En tout cas, ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a un éclatement de l'identité humaine et que Israël a pour vocation, et ça il faudrait amener les textes, il faudrait rentrer dans les sources pour voir la précision de cette chose, je ne le ferai pas, Israël a pour vocation de réaliser l'unité de ses identités. Non pas d'accaparer par sa propre coloration l'humanité, si vous voudriez dire qu'à Dieu ne plaise, judaïser la planète, il ne s'agit absolument pas de ça, il s'agit au contraire, en préservant son identité particulière, de créer un foyer, une sorte de focalisation des identités qui permettrait de rétablir l'unité humaine. Voilà. Donc, on peut dire que c'est ça qui a amené à Kadosh Baruch Hu, le Saint béni soit-il, à élire Abraham pour réaliser ce projet. Il y a aussi une autre particularité très importante, et là, je pense quelque chose qui est un peu oublié. La sainteté dans la vie d'Israël, dans l'enseignement d'Israël, se réalise au niveau collectif et non pas au niveau individuel. La réalisation de la sainteté par l'individu, ça s'appelle en français le sentiment religieux. Le sentiment religieux est un sentiment qui part de l'individu. L'individu est intéressé à s'attacher au Créateur. Il y a un texte douloureux dans la Torah qui parle de ça. C'est le texte du veau d'or. Lorsque le peuple se sent abandonné, il développe un sentiment religieux, il demande qu'on lui fasse un veau. Ça n'a rien à voir avec le canton. Et il demande donc un veau pour se prosterner, pour rendre un culte, et la Torah disqualifie ce mouvement-là. Quand la Torah parle de sainteté, elle parle d'une révélation, tout d'abord. Ça ne commence pas par l'homme, mais ça commence par le Créateur. C'est Dieu qui s'adresse à l'homme, et non pas l'homme qui commence à s'adresser à Dieu. C'est Dieu qui s'adresse à l'homme. C'est ce qu'on appelle la parole prophétique. Et à qui Dieu décide-t-il de s'adresser? Non pas à l'individu, mais à une nation. Quel est le sens de cette différence? Pourquoi est-ce que le Créateur du monde veut-il s'adresser précisément à une collectivité, à une entité, je vais dire un mot qui n'est pas populaire aujourd'hui, à une collectivité politique, à une nation? Eh bien, c'est parce que le Créateur a décidé de sanctifier la vie politique. C'est très contraire, ce que je dis là, à l'enseignement du christianisme. Le fondateur du christianisme a dit qu'il fallait rendre à César ce qui est à César, c'est-à-dire et à Dieu ce qui est à Dieu, c'est-à-dire que les affaires de César, de l'État, ne concernent pas Dieu. Et s'il y a un projet audacieux, on pourrait dire même osé, de la part du peuple juif, c'est de vouloir sanctifier le collectif. Et donc, s'il y a un projet dans le judaïsme, c'est de diffuser dans le monde entier un enseignement qui permettrait de sanctifier les communautés humaines. Nous avons un exemple d'ailleurs moderne de cela, assez surprenant. Je parle ici de la communauté des Makoya. La communauté des Makoya au Japon, qui existe depuis à peu près 60 ans, qui n'est pas d'ailleurs noachide, c'est une communauté chrétienne, mais une communauté qui est persuadée que s'attacher au peuple juif permettra de sanctifier le Japon. Non pas les Japonais, mais le Japon en tant qu'entité. C'est-à-dire, je les ai rencontrés à Jérusalem, ils demandent « Apprenez-nous à faire du Japon une nation sainte. Vous êtes une nation sainte, apprenez-nous à le faire. » C'est ce qu'ils font. Et c'est assez audacieux parce qu'effectivement, jusqu'à ce jour, les entités politiques ne font pas partie de la sainteté. Mais le prophète Zacharie, en hébreu Zecharia, dans le chapitre 2, nous dit « Venilvou goyim rabim el Hashem bayomahou » De nombreuses nations s'associeront à Dieu en ce jour. Des nations, dit-il, non pas des individus. Le mot « goyim » employé par le prophète en hébreu biblique signifie « des nations ». Contrairement à l'hébreu moderne où ça signifie « des gentils ». Mais, nous dit le prophète, « des nations s'associeront à Dieu en ce jour, ve'ayuli le'am et seront pour moi un peuple ». Donc, ça veut dire que nous autres, les Juifs, nous avons été les premiers dans l'histoire, nous avons un privilège. Nous avons été les premiers dans l'histoire à être un peuple de Dieu. Mais nous pouvons l'enseigner également aux nations. Alors, n'ayez pas peur pour les Juifs qui sont ici. Le prophète continue à nous dire « Veshachanti betocher » et je résiderai en toi. C'est en toi, dans la nation d'Israël. Donc, nous aurons un rôle quand même, non pas d'être, pas le rôle que nous avons jusqu'à présent, mais nous deviendrons les prêtres des nations. Kohane Hashem Tikareu, vous serez appelés les prêtres des nations. C'est-à-dire le statut que nous connaissons aujourd'hui au Kohanim, les prêtres, eh bien, sera le statut de tout Israël pour l'humanité. Eh bien, et le statut des Kohanim, alors qu'est-ce qu'il sera? Eh bien, nos Kohanim auront le statut du Kohen Gadol, nous dit le prophète Ézéchiel, le grand prêtre. Et le grand prêtre, alors qu'est-ce qu'il sera? Ben, il sera un Superman. Quelque chose de ce genre. Enfin, bon, à vous de développer l'imagination. En tout cas, donc tout ce que je vous raconte ce soir prouve que le travail que je fais actuellement est complètement malvenu. Pour une raison très simple, c'est que ce que, une des choses pour lesquelles j'œuvre et dont le rabbin a parlé tout à l'heure, le Centre Noah Akin mondial, eh bien, il ne s'occupe pas des États, justement. Il ne s'occupe pas des nations. Nous nous adressons à des individus parmi les nations. Et ce pour une raison très simple, c'est qu'en fait, le travail devrait être fait par des gouvernements. Des gouvernements des nations devraient s'adresser au gouvernement israélien pour demander comment est-ce qu'on fait pour sanctifier l'État. Mais la culture actuelle est très loin de cela. Alors pour l'instant, nous avons un autre travail. L'autre travail, c'est de s'adresser à des individus. Effectivement, il y a aujourd'hui, de manière spontanée, dans le monde entier, des individus, j'entre en contact direct avec eux, nous avons des rapports permanents, des individus de toutes les nations de la Terre qui, spontanément, sans que personne leur ait parlé, ressentent aujourd'hui le besoin de se mettre à l'écoute de la parole du Dieu d'Israël. Comment est-ce que c'est né? C'est difficile à savoir. Quand j'interroge ces individus, ils ont du mal, d'ailleurs, à me dire comment est-ce qu'ils y sont arrivés. Parfois, c'est à partir du christianisme qu'ils ont rejeté à 3/4, 80%, 95% et parfois 100%. Mais ce rapprochement se fait sans que nous autres, les Juifs, nous ayons pris l'initiative de le faire. On peut dire qu'il y a quand même quelque chose qui a changé dans l'histoire. Ce qui a changé dans l'histoire et qui fait que des fils des nations sont intéressés par la parole du Dieu d'Israël, eh bien, c'est qu'il s'est passé un événement depuis déjà quelques décennies. C'est qu'Israël est rené, a ressuscité. Nous sommes sortis d'un long exil de près de 2000 ans. Pendant ces 2000 ans, nous étions condamnés à une stratégie de survie. Nous étions là pour nous abriter de la persécution, de l'antisémitisme. Il fallait tenir le coup. Et ça n'a pas été facile, je vous assure. Et puis, après avoir tenu le coup tant bien que mal, et sans parler de la catastrophe de la Shoah, où un tiers de notre peuple a disparu, eh bien, on a tenu le coup et on est arrivé jusqu'au moment de la réalisation des paroles des prophètes. Les prophètes ont dit qu'Israël reviendrait sur sa terre. Et vous comprenez à quel... Et ça s'est réalisé. Et vous comprenez à quel point cet événement, important pour nous autres, les Juifs, en fait, est révolutionnaire pour le subconscient collectif des nations. Je vais me mettre un peu à la place des chrétiens. Et je me dis, mais enfin, vous autres, les Juifs, vous êtes revenus sur votre terre. Vous avez bouleversé toutes les habitudes de pensée des dogmes chrétiens. Parce que vous savez que le pape avait très bien dit à Herzl, en son temps, quand Herzl avait demandé son aide pour amener les Juifs en Eretz Israël, le pape lui a dit, ce que vous me demandez, docteur Herzl, est en opposition absolue avec tout ce en quoi je crois. Et donc je suis prêt à aider des Juifs par charité, mais pas à les ramener à Jérusalem. Ça a été très net. Bon, aujourd'hui, il y a une atténuation de ce discours à cause des faits. Mais il faut savoir qu'à l'origine, c'était bouleversant. C'était bouleversant également pour la conscience musulmane. L'islam qui était persuadé qu'il venait remplacer la parole du Dieu d'Israël. Et puis brusquement, des liens revenant, le peuple d'Israël, qui apparaît à nouveau sur la scène internationale. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? Alors, disons que le phénomène est accepté, assimilé. Il est même favorisé par le monde chrétien aujourd'hui, d'une certaine manière. Entre autres à cause des sentiments de culpabilité envers le peuple juif. Mais malgré tout, ça pose un problème. L'État d'Israël est un point d'interrogation gigantesque sur la théologie chrétienne. Et alors, le monde se dit, et même quand il s'agit non pas d'un monde religieusement chrétien, un monde même qui a perdu la foi, mais même quand on n'a plus la foi chrétienne, il y a des modes de réaction extrêmement, disons, subconscients qui subsistent. Je vais vous raconter une histoire. Un de mes maîtres a rencontré un homme politique français qui lui a dit « Vous savez, monsieur le rabbin, je ne crois pas en aucune religion. Pour moi, c'est de la bêtise tout cela. Mais entre nous, pourquoi est-ce que vous l'avez crucifié ? Vous comprenez que ces modes de réaction continuent. Et donc, ce que le monde se demande, il se dit, mais enfin, vous êtes revenu sur votre terre. Si vous avez fait tellement de chamboulements, c'est que vous avez quelque chose à nous dire. Alors dites-le. Que fait la classe politique israélienne ? Elle se tait. Nous préférons, pour des raisons qu'on peut expliquer, mais enfin, nous préférons nous présenter comme une partie du monde occidental, une avancée de l'Europe ou des États-Unis au Proche-Orient. Nous sommes la seule démocratie du Proche-Orient. Et donc, aidez-nous parce que nous faisons partie de vous. Mais on ne se rend pas compte, nous ne nous rendons pas toujours compte que ce n'est pas ça qu'on attend de nous. On attend de ce peuple qu'il ait quelque chose à dire. Parce que si vous n'avez rien à dire, alors ce pays n'est pas le vôtre. Rendez-le, il y a des Palestiniens pour ça. Et donc, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, il y a une certaine urgence. Mais cette urgence, elle a, si vous voulez, deux raisons d'être. Cette urgence de parler de l'enseignement d'Israël. Tout d'abord parce que cela fait partie intégrante de la vision des prophètes. Les prophètes nous ont dit, Isaïe, Micha, ont dit que viendra un jour où les nations viendront et diront, levons-nous et nous irons à la montagne de l'Éternel, dans la maison du Dieu de Jacob, pour qu'il nous donne de ses enseignements, pour que nous marchions dans ses sentiers, car de Sion sortira la Torah et la parole de Dieu de Jérusalem. Remarquez que cette fin de verset, qui est bien connue, « Ki mitzion tetzetora udvar Hashem Yerushalayim », que l'on récite lors de l'ouverture du tabernacle à la synagogue, ce verset dans les prophètes est prononcé par des goïms, par des non-juifs. Ce sont des non-juifs qui disent un jour « Nous voulons écouter cette parole ». De plus, nous vivons aujourd'hui, si nous rentrons dans la réelle politique, il se passe quelque chose d'assez extraordinaire. Il y a une conflagration planétaire entre des blocs, entre le bloc occidental, le bloc islamiste, et vous avez encore d'autres spiritualités qui sont là en rivalité sur l'hégémonie de la culture universelle. Alors pour l'instant, la culture universelle est encore aux mains de l'Occident, mais elle risque d'être contrebalancée par d'autres options. Et dans le cadre de cette lutte, car c'est une lutte, c'est comme s'il y avait une guerre mondiale, mais larvée, une sorte de guerre froide, mais elle existe cette guerre. Eh bien, dans ce conflit-là, le temps est venu de révéler l'alternative que propose Israël, aussi bien au christianisme qu'à l'islam et à d'autres spiritualités. Il y a un enseignement qui existe et qui est ancré dans la tradition. C'est-à-dire, ce n'est pas une invention, ce n'est pas une réforme, ce dont je vous parle. Ce sont des choses qui sont connues dans les textes talmudiques les plus établis, dans la Mishnah, dans le Shulchan Aruch. Les rabbins en ont parlé au cours des siècles, mais ça faisait partie de ces enseignements que l'on savait être théoriques pour l'instant. Mais de nos jours, le phénomène commence à prendre de l'ampleur. Il y a parmi les nations des hommes de droiture qui se demande, est-ce que nous n'aurions pas quelque chose à apprendre du Dieu d'Israël? Alors, il y a dans cette tradition ce qu'on appelle le noachisme. Le noachisme, c'est la législation de la Torah pour les nations, c'est-à-dire ça suppose qu'en fait la Torah parle de deux religions différentes, celle du peuple prêtre qu'on appelle le judaïsme et celle des nations qu'on appelle le noachisme. Et il y a eu des tentatives au cours des siècles d'actualiser cet enseignement. Pour ne pas remonter trop loin, écoutez, on va quand même remonter très loin. Nous avons un exemple de cela dans le livre des Rois. Dans le deuxième livre des Rois, dans la Bible, il est question d'un entretien très intéressant entre le chef de l'armée araméenne, c'est-à-dire le général en chef de Syrie de l'époque, avec le prophète Élisha, en français, Élisée. Et le général en chef araméen, donc un goy, un non-juif, s'entretient avec le prophète parce qu'il est lépreux. Et le prophète occasionne sa guérison de manière quasi miraculeuse, je ne dirais pas vraiment miraculeuse, mais enfin quasi miraculeuse. Et le général syrien dit « Maintenant j'ai compris, il n'y a pas de Dieu sur la terre, en Elohim bechol haaretz, kim bi Israël, si ce n'est en Israël. » Et donc nous avons l'exemple, et le Talmud l'explique très bien, que Naaman est devenu un noachid. Et il pose des questions de halakha au prophète. Il dit « Comment est-ce que je dois me comporter, moi, dans un temple païen, par exemple ?» Donc nous avons un exemple déjà biblique de ce genre de comportement, il y en aurait d'autres. Je vais faire un saut très rapide vers le 19e siècle, depuis l'époque de la Bible jusqu'au 19e siècle, et nous tombons sur un phénomène très intéressant, celui du Rav Eli Ben Amozeg, de Livourne, en Italie, qui a eu des entretiens extrêmement fructueux avec un Français d'origine catholique du nom de Aimé Pallière. Aimé Pallière, qui, pour des raisons que nous n'allons pas développer pour l'instant, ça serait quelque chose de très intéressant, mais ça demanderait beaucoup trop de temps, a voulu se convertir au judaïsme. Et le rabbin Ben Amozeg lui a dit « Je te propose de ne pas le faire. Je te propose de devenir le fondateur, d'être le grand prêtre du culte noachide. » Pour tout vous dire, c'était une catastrophe. Ça n'a pas marché. Aimé Pallière n'a pas véritablement suivi les instructions du rabbin. Et il a eu une vie un peu, disons, tragique, dans ce sens que il ne savait plus très bien où il était. Il était devenu celui qui délivrait des sermons dans la synagogue libérale de Paris. Et il expliquait aux Juifs qu'il devait faire le Shabbat. Lors de son enterrement, alors ça s'est fait dans un cimetière chrétien, avec le Kaddish sur sa tombe. Enfin, ce n'était pas vraiment ça. Mais la tentative a existé. Beaucoup plus près de nous, nous avons l'exemple de l'enseignant du rabbi de Lubavitch, qui était très préoccupé par la diffusion des mitzvot chez les juifs et également chez les nations, et qui a donné des instructions à ses chassidim, les adeptes du chassidim Chabad, Lubavitch, d'enseigner les sept commandements noachid aux nations. Et d'ailleurs, il continue à le faire, c'est quand même en veilleuse, mais ça continue. Je vais vous donner un exemple assez surprenant. Dans la ville de Naplouse, vous savez, en Israël, il y a une ville, on appelle Naplouse, qui se trouve actuellement sous l'autorité palestinienne, est extrêmement hostile à l'État d'Israël. Mais partout dans la ville de Naplouse, vous voyez des affiches en arabe avec la photo du rabbi de Lubavitch et la liste des sept commandements noachid. Et surprenant, les Arabes ne touchent pas à ces affiches. Il y a un respect inné de ces enseignements-là, bien qu'ils sont musulmans. Et il y a beaucoup de surprises. Je veux dire, dans le travail que je fais ces dernières années autour de ça, je rencontre des choses extrêmement surprenantes, différentes réactions extrêmement surprenantes. Si déjà on en parle, vous savez qu'il y a un homme politique turc qui a accepté en secret, devant une cour rabbinique, les sept commandements noachides et qui a essayé d'œuvrer pour empêcher la flottille. Vous savez, la fameuse flottille. Mais son nom est secret, mais je suis au courant de son existence, etc. En tout cas, il y a aujourd'hui, si vous voulez, dans tous les pays du monde, un éveil. Par exemple, il y a une communauté noachide qui existe au Canada. Il y en a plusieurs, en nombre assez important, aux États-Unis. Il y en a en France, en Hollande, en Pologne, en Russie, en Ukraine. Je dis ici ce qui me vient tout de suite à la pensée, parce que j'en saute certainement. Il y en a également en Amérique du Sud, en Afrique noire. Il y en a également en Indonésie. La plus importante des communautés que je connais pour l'instant compte 400 personnes dans les Philippines qui ont organisé 9 synagogues à leur manière et qui demandent des instructions rabbiniques pour savoir comment se comporter. Donc, le phénomène existe et il va certainement se développer, comme m'a dit une fois une noachide anciennement chrétienne. Elle m'a dit « Mais si j'avais su que ça existait, ça fait longtemps que je n'aurais pas été chrétienne, j'aurais adopté le noachisme. » Là, je voudrais, après ce passage sur l'actualité, revenir un peu aux sources. Il y a un texte talmudique assez surprenant dans le traité de Baba Kama, à la page 38a. Vous savez que les folios talmudiques sont divisés en deux pages, A et B. Et donc, dans le traité de Baba Kama, 38a, il y a un texte qui concerne le noirisme. Que dit ce texte? Il nous dit que Dieu, ayant vu que les nations ne respectaient pas les lois données à Noé, eh bien, il les a abolies. C'est-à-dire, Dieu aurait aboli les lois noachides. Alors, le Talmud en est consterné, il dit, mais enfin, comment est-ce qu'on peut dire une chose pareille? Ça voudrait dire qu'il suffirait d'être pécheur pour être acquitté? Chote Niskar, le pécheur est récompensé? Alors, le Talmud revient sur son enseignement et dit, non, c'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'ils sont récompensés de leurs actions, mais non pas comme quelqu'un qui accomplit une mitzvah, qui a reçu l'ordre d'accomplir la mitzvah, mais comme quelqu'un qui le fait par sa bonne volonté. Et là, il faut expliquer qu'il y a un présupposé du Talmud, qu'on a plus de récompense quand on fait un acte pour lequel on a reçu l'ordre de le faire, que lorsqu'on fait un acte pour lequel on n'a pas reçu l'ordre de le faire. Surprenant, mais il semblerait donc que la bonne volonté est inférieure au commandement. Cela nécessiterait un cours entier. Mais en tout cas, ça voudrait donc dire que les nations continuent à être engagées envers les commandements noachides, mais sans sentir que ce sont des mitzvot. Et là, je voudrais faire une petite parenthèse intéressante sur le plan historique. Il y avait un juif s'était posé la question de savoir si les mitzvot sont un bienfait, une bénédiction, ou bien une malédiction. Le juif en question s'appelait Paul de Tarse, et c'est lui qui a décidé qu'il fallait abolir les mitzvot. Et c'est comme ça qu'il a fondé le christianisme. Quel était l'argument de ce fondateur? C'est très simple, il disait, s'il y a un commandement de Dieu, eh bien, le commandement, c'est la condition de ma relation harmonieuse avec Dieu. Mais comme je suis un homme et qu'un homme est pécheur, je ne peux pas ne pas pécher. Donc le fait d'avoir des commandements va irrémédiablement me rendre coupable, parce que je ne peux pas ne pas pécher. Et donc les mitzvot sont une malédiction. C'est écrit en toutes lettres d'ailleurs dans les évangiles, la malédiction de la loi. Et alors vous savez qu'une fois que Paul a dit cela, eh bien, il y avait une communauté chrétienne, les premiers chrétiens, qui ont commencé à se comporter de manière dissipée. Et alors l'apôtre leur a dit, mais enfin, pourquoi est-ce que vous vous comportez comme ça? Et ils lui ont dit, mais c'est toi qui l'as dit. Tout est permis puisque la loi est abolie. Il leur a répondu, non, tout est permis, mais tout n'est pas convenable. Ça veut dire que l'exigence de continuer à se comporter en fonction des commandements de la morale continue, mais ce n'est plus une mitzvah. C'est exactement ce que dit la Guémara. La Guémara dit que les goïms ne veulent pas de la morale en tant que mitzvah, et en tant que commandement. Et souvent d'ailleurs, des non-juifs me disent, mais enfin, c'est quoi votre histoire de noachisme? C'est de la morale naturelle? C'est quoi les 7 commandements noachides? De ne pas être idolâtre? De ne pas blasphémer? De ne pas tuer? De ne pas voler? De ne pas être débauché? De ne pas manger de la chair d'un animal vivant? Et d'avoir des tribunaux? Mais ça, tout le monde le fait. Alors, qu'est-ce que vous nous parlez des lois noachides? Ce sont des choses que, de toute façon, nous faisons. Comme a dit un noachide, mais enfin, ça veut dire simplement ne pas se comporter comme une bête. Mais ça, je le fais déjà. En fait, l'innovation, au niveau de la halakha, si vous voulez, c'est que quand un non-juif décide d'accepter de manière solennelle, il y a pour cela une formalité qu'il faut passer, il accepte de manière solennelle de recevoir les 7 commandements noachides, ça redevient une mitzvah. Alors que pendant des milliers d'années, ça avait cessé de l'être, ça redevient pour lui le moyen d'adhérer à Dieu. Et ça se passe à travers l'acceptation solennelle des commandements noahides en présence d'un tribunal rabbinique. Et j'ai eu l'honneur, plusieurs fois, d'être présent dans un tribunal de ce genre. C'est-à-dire des non-juifs qui viennent et qui demandent solennellement à accepter les sept commandements noahides, ce qui leur donne le statut de chassid umot haolam, c'est-à-dire de juste parmi les nations. Et ce qui est intéressant, c'est que, d'abord, c'est fait avec beaucoup d'émotion. J'ai pu le voir de mes propres yeux, des non-juifs qui viennent, chacun dans sa langue d'ailleurs, et qui déclarent solennellement accepter la parole du Dieu d'Israël, les commandements noahides, la solidarité avec le peuple juif, entre autres, et qui, avec les larmes aux yeux, signent cette déclaration, etc. Et donc, ça existe. Évidemment, ça n'a pas encore été totalement institutionnalisé. C'est-à-dire, le grand rabbinat d'Israël auquel je me suis adressé pour donner une forme officielle à ce statut de Ben Noach, le fils de Noé, est encore dans l'hésitation. Ils attendent de voir comment ça va se développer. Ils m'ont dit, écoutez, on va prendre trop position pour l'instant. Comme toute chose importante, ça prend du temps. Faites, on verra bien. Mais en tout cas, pour l'instant, cette demande d'adhésion existe et elle a besoin donc d'une prise en charge. Là, je voudrais entrer un petit peu dans les détails. Je sais que, comme il a dit tout à l'heure le rabbin El-Kaïm, le discours du Rav Cherki est dense. Et donc, ça a besoin peut-être un peu d'être dilué. Je vous laisserai le temps également de poser des questions. Mais je voudrais entrer quand même dans quelques petits détails. Sept commandements noahides, je vous les ai fait entendre. L'interdiction de l'idolâtrie, du blasphème, du vol, du meurtre, de la débauche, etc. Tout ça, ça s'appelle des commandements négatifs. C'est ce qu'on appelle ne pas faire. Ne pas voler. Ne pas tuer. Mais est-ce que ça donne un contenu positif à la vie ? Vous savez bien que dans le judaïsme, il y a 613 commandements. 365 de ces commandements sont des commandements négatifs, mais 248 sont des commandements positifs. Pas seulement des commandements qui nous disent ce qu'il ne faut pas faire, il y a des commandements qui nous disent ce qu'il faut faire. Par exemple, la prière. Par exemple, agiter un loulav. Par exemple, la charité. L'amour du prochain. Tout cela sont des commandements positifs. Est-ce que cela existe dans la législation noahide ou non ? Et là, je voudrais vous faire part d'un enseignement de Maïmonide, notre plus grand législateur, qui fait une distinction entre deux types de non-juifs. Il y a le non-juif qui n'a pas accepté la loi noahide et celui qui l'a déjà accepté. Celui qui n'a pas accepté la loi noahide est encore un barbare. Ça existe, il y a des barbares sur Terre. Eh bien, tant qu'il n'a pas accepté cette loi, la halakha lui interdit l'accomplissement de mitzvot supplémentaires. Il serait effectivement intolérable que quelqu'un qui n'a pas pris sur lui de ne pas tuer ait la gentillesse de bien vouloir agiter un loulav lors de la fête de Soukhot. Vous comprenez le hiatus intolérable. Mais, dit Maïmonide, à partir du moment où il a accepté de manière solennelle les sept commandements, alors il entre dans une autre catégorie, celle du chassid umot haolam, ou bien du ger toshav, c'est-à-dire de l'étranger établi parmi nous, qui peut ajouter autant de commandements qu'il le désire et les accomplir en accord avec la loi rabbinique, selon la halakha. Et effectivement, c'est assez révolutionnaire, mais ça veut dire beaucoup de choses au niveau de ceux qui connaissent, pour ceux qui connaissent les textes. Cette remarque de Maïmonide est très importante. Effectivement, j'ai reçu des questions de Noahides dans le monde entier qui m'ont demandé « Est-ce que je peux mettre une mezouza à ma porte ? Comment est-ce que je fais l'abattage rituel ? Est-ce que je peux respecter le Shabbat ? Est-ce que j'ai le droit d'étudier la Torah ? Est-ce que je peux faire la circoncision ? Comment faire un mariage Noahide ? Comment faire une cérémonie de deuil ? À quel âge se fait la bar mitzvah chez un Noachide. Vous comprenez qu'il y a un âge où on est tenu d'accomplir les mitzvot. Alors à partir de quel âge? Et tant d'autres choses, ce sont des questions que nous recevons tous les jours sur notre site internet. Et nous avons besoin parfois de débats entre les rabbins. Les rabbins décident entre eux de ces choses-là en fonction des textes. Et nous sommes en train d'établir aujourd'hui un Bet Midrash pour la formation des rabbins qui vont traiter de ces problèmes. Sans parler également d'un autre Bet Midrash, une autre maison d'études, pour les Noachides eux-mêmes. Il y a des Noachides qui demandent à avoir une étude suivie et nous répondons à ces besoins. Évidemment, nous leur parlons chacun dans sa langue. Pour l'instant, nous avons 3 langages différents, le français, l'anglais et le russe. Et nous sommes en train de préparer les sections en allemand, espagnol et arabe. Pour ce qui est du chinois, c'est encore un peu loin, mais ça viendra un jour. Je voudrais quand même rajouter ici une petite tranche dans ce... Ça marche pas très bien. Hein. Ça marche maintenant? Et maintenant? Non. Bon, je voudrais... Ça va là? Vous entendez? Bon, je voudrais ajouter une tranche d'enseignement tiré de l'enseignement du Rav Kook. Le Rav Kook, un des grands penseurs du judaïsme contemporain au XXe siècle, qui a expliqué, sur la base des textes talmudiques, dans lesquels je ne rentrerai pas parce que ça serait trop ardu, il explique que viendra un temps où, à Jérusalem, nous aurons une sorte de cour internationale de... Si vous voulez, ce sera un garage de réparation des cultes. Alors imaginez donc un représentant d'une nation parmi les nations qui arrive à Jérusalem et qui dit, aux sages d'Israël, j'ai telle et telle sensibilité religieuse, j'ai telle tradition culturelle et culturelle. Qu'est-ce que vous en pensez, messieurs les rabbins? Alors les rabbins disent, posez ça sur la table, on va voir. Et alors on ouvre et on dit, et les rabbins... Mais non, c'est... Non. Voilà, c'est une question d'angle. Et alors les rabbins disent, ça, ce détail-là est problématique, ça c'est très bien, renforcez-le, ça, on n'a rien à dire là-dessus, etc. C'est-à-dire qu'en fonction des différentes sensibilités de civilisation, le message adressé de Jérusalem est différent. C'est-à-dire que quand Dieu parle, il parle l'organe d'Israël. Mais il le fait selon la sensibilité particulière de chaque civilisation. Parce qu'il n'y a rien de pire que l'uniformité des identités. C'est la multiplicité des identités qui est le garant d'un message véritablement vivant. J'aurais... Je voudrais également vous ramener quelques petites notes, très rapides, tirées des textes. Vous savez que chez nous autres, les Juifs, les sacrifices ont été abolis. Pas parce qu'on le voulait, mais parce que le temple est détruit et que le jour où le temple sera rétabli, nous rétablirons les sacrifices. C'est vrai. Mais pour l'instant, les sacrifices sont impossibles. D'après la règle juive, si un Juif sacrifie un animal à Dieu de nos jours, il est transgresseur de la loi. Il est ce qu'on appelle « hayav karet ». Mais Maïmonide nous dit, si un non-juif veut présenter un sacrifice à l'Éternel, nous ne pouvons pas faire le sacrifice pour lui, mais nous avons le devoir de lui expliquer comment le faire. Je connais personnellement un Noachide de Pennsylvanie, aux États-Unis, qui est venu spécialement en Israël pour faire un sacrifice et qui l'a fait. Il a pris 2 pigeons qu'il a présentés sur un autel construit par lui-même dans la région de Jéricho. C'est des phénomènes absolument incroyables. Je ne sais pas si vous trouvez ça tout à fait esthétique de sacrifier des pigeons, mais en tout cas, certains d'entre vous certainement mangent du pigeon, alors pourquoi ne pas en sacrifier un ou deux? Je voudrais raconter quelques petites histoires quand même assez intéressantes. Vous savez que j'ai rencontré une fois un Européen, je ne veux pas dire trop de détails pour ne pas l'identifier, je ne pense pas qu'il serait content, mais j'ai rencontré un Européen de très haut niveau qui m'a dit, écoutez, monsieur le rabbin, s'il parlait de moi, je suis né dans la chrétienté, mais je n'y crois plus. Et j'ai appris les spiritualités orientales, je les connais très bien, et extrême orientale, je les connais très bien, mais ça ne me fascine pas du tout. Je sais qu'il y a un Dieu et qu'il a choisi son peuple Israël pour transmettre sa parole à travers lui. Et donc c'est la raison pour laquelle, monsieur le rabbin, je suis venu à Jérusalem pour que vous me disiez ce que je dois faire pour adhérer à Dieu. Mais, attention, ne me parlez pas des sept lois noachides, parce que ça, je l'ai fait déjà. Évidemment, vous comprenez que cet individu est considéré par sa famille un peu comme un fou. Entre autres par sa femme juive, évidemment, qui est très effrayée par cette idée-là. Il est intéressant de voir que certains juifs, certaines autorités rabbiniques, sont effrayés par l'idée même de réaliser l'idéal d'Israël. Certains se demandent, enfin, c'est de la folie. Et ils oublient parfois que ça fait partie de la mission d'Israël. Et l'argument qui est souvent présenté, c'est que ça risque d'augmenter le phénomène d'assimilation. Pour tout vous dire, c'est totalement faux. Les Noachides que je rencontre sont en général un barrage contre l'assimilation. Ils refusent d'épouser des Juives et les Noachides femmes refusent d'épouser des Juifs. Parce qu'ils savent que s'ils veulent s'attacher à Israël, ben, il y a une porte ouverte qu'on appelle la conversion. Mais ils ne sont pas intéressés à le faire. Parce qu'ils veulent sanctifier leur vie en tant que fils des nations. Et ils veulent arriver également à la sanctification de leur nation. Et on peut dire que commence aujourd'hui le début de la réalisation d'une prophétie, celle du prophète Zacharie à nouveau, qui dit que viendra un temps où des membres de chaque nation de la terre s'attacheront au coin du manteau d'un judéen, c'est-à-dire un juif, en lui disant « Allons avec vous, car nous avons entendu que Dieu est avec vous. » Nelecha imachem, kishamarnu Elohim imachem. Voilà, je voulais vous faire part un peu de ça. Je suis intéressé à vos questions. Vous savez que le rabbin Al-Kaïm a donné un enseignement très important tout à l'heure quand il a dit que la première question est la plus difficile à formuler et qu'après ça coule tout seul. Il y a avec moi ici un rabbin de Jérusalem, le rav Ephraim Choban, qui est assis au premier rang. Et toute personne qui serait intéressée au niveau organisationnel et autres a plus de renseignements techniques, savoir comment aider cette entreprise, sont invités après la conférence ou demain, je serai encore à Lausanne, à nous rencontrer, à prendre des rendez-vous ou même à continuer le contact à partir de Jérusalem. Nous avons tous les détails de la technologie électronique et donc vous pouvez nous contacter. Mais avant de lui laisser la parole pour 1 minute et quart, il va vous parler en anglais parce que c'est la langue qu'il sait parler. Je suis intéressé, dans la mesure où vous le voulez, à entendre vos questions, vos remarques, vos oppositions de préférence. Alors je vais employer la même technique que le rabbin Al-Kaïm, je vais attendre. Je vous ai fait tellement peur ? Eh bien non, ben tant pis, ben voilà, maintenant c'est le Rav Choban qui va vous donner quelques détails techniques.
So first of all, I want to say sorry because I don't know how to speak French. I want to say sorry because the first language is English.